Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous revoir. Je commence à connaître l'Assemblée et ça me fait du bien de pouvoir prendre part à un petit peu de votre vie communautaire. Et c'est toujours intéressant de voir comment le Seigneur agit à gauche et à droite. Ce matin, j'étais au culte chez moi. Le Seigneur est à l'œuvre là-bas au Val d'Europe et j'entends des bonnes choses ici aussi. Et il est notre Seigneur à tous et il nous bénit tous. On peut vraiment être reconnaissant de le connaître et de faire partie de sa famille. Alors, vous l'avez remarqué, il y a des moments dans la vie où peut-être plus qu'à d'autres, il y a des choix à faire. Vous êtes d'accord avec ça? On a des choix à faire dans la vie. Et nous, on vit actuellement une période où il y a pas mal de choix à faire. Je pense à mon fils aîné, Joël, il habite à Montréal. Maintenant, il a terminé son bail et il a terminé son travail. Et là, il se pose la question, est-ce que je devrais rentrer en France? Il va venir passer quelques mois, mais après, la question va se poser, est-ce que je vais retourner au Canada? Si oui, est-ce que je vais aller à Montréal ou est-ce que je vais plutôt m'installer à Toronto ou Ottawa? Des choix. Alors, mon autre fils, lui, il a passé un concours, il veut devenir éducateur spécialisé et il est en face de certains choix. Il a passé deux concours, il pourrait très bien se retrouver soit à Besançon ou soit à Strasbourg. Mais sa copine, elle habite à Strasbourg, alors je pense qu'il a plutôt envie d'aller à Strasbourg. Mais il y a des choix à faire quand même. Et ma fille Anne-Sophie, elle est au lycée. Et pour elle, elle pense déjà à une carrière. Qu'est-ce que je vais faire après le lycée? Et pour nous, on a une copropriété à Champs-sur-Marne. Depuis 2 ou 3 ans, on loue à des étudiants. Et la question se pose, est-ce qu'on doit continuer à faire ça? Ou est-ce qu'on doit louer à une famille? Ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt vendre cette copropriété? Des choix. Vous voyez, la vie est faite de choix. Vous-même, pensez à votre vie et pensez à tous les choix qui s'offrent devant vous. C'est hallucinant, parfois, les choix. Mais vous allez d'accord avec moi quand même que, pour dire que choisir entre une claque sur la tête ou un câlin, ça, le choix est facile, c'est quoi? La claque ou le câlin? La claque. Alors, je pense qu'on préfère un câlin quand même. Donc, il n'y a pas d'hésitation à avoir ici. C'est plus difficile quand il faut choisir entre quelque chose de bon et quelque chose de meilleur. Vous trouvez pas? Parfois, les choix, c'est entre ce qui est bien et ce qui peut être bien meilleur. Par exemple, dernièrement, on avait un frère à l'église du Val d'Europe, c'était un samedi, et il voulait faire une formation, il y en avait une à Montreuil, excellent, vous connaissez sans doute, et il y en avait une autre à Paris sur la relation d'aide. Et il aurait pu faire les deux, mais qu'est-ce qui est meilleur? Et là, il était en face d'un choix. Le texte qu'on va relire aujourd'hui nous parle aussi de choix, nous parle de priorité, de décider entre ce qui est bon et entre ce qui est meilleur. Je vais relire le texte avec vous. Donc, on l'a dit, c'est dans Luc 10, verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Alors, dans l'histoire d'aujourd'hui, comme dans tout le reste de l'évangile de Luc, si vous vous souvenez pourquoi Luc a écrit, Luc cherchait à convaincre son ami Théophile. Luc voulait montrer à Théophile que la foi chrétienne, ça tient la route. C'est du sérieux, on peut y croire. Et donc, dans ce passage-ci, même objectif, le Seigneur veut nous convaincre que l'évangile, c'est du sérieux, ça tient la route, que c'est vrai. Et là, dans ce texte, Luc nous présente en fait une scène de la vie quotidienne en Israël. quand vous lisez la Bible, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois on aimerait bien comprendre comment les gens vivaient à cette époque-là, n'est-ce pas? Et donc c'est un petit peu comme une tranche de vie ici que Luc nous donne pour nous aider à pénétrer un petit peu dans le vécu des gens de cette époque-là. Et c'est très intéressant. Une petite fenêtre qui s'ouvre et il nous fait voir ce qui se passe dans une famille de Judée, une famille croyante, à l'époque de Jésus. Donc ça, c'est le contexte. Alors, je dirais que ce qui se passe ici, c'est à la fois ordinaire et extraordinaire. Et là, je vais expliquer. Ordinaire, pourquoi ? Parce que c'était normal qu'une maison de Judée accueille des invités. Là, il n'y avait rien d'anormal à cela. Ordinaire. Parce que dans cette partie du monde, l'hospitalité, c'est un devoir sacré. Alors peut-être dans les cultures africaines, c'est comme ça. Peut-être dans les cultures asiatiques aussi. Mais en tout cas, au Moyen-Orient, recevoir des gens chez soi, exercer l'hospitalité, c'était normal. C'était même enseigné dans la Torah. Et nous, ici, dans nos cultures, on a un peu perdu ça. Et on doit se laisser reprendre et exhorter par ces cultures-là. Mais donc, recevoir quelqu'un chez soi, rien d'étrange. Rien d'étrange. Que Jésus soit accueilli chez Marie et chez Marthe. Mais ce qui est, par contre, moins ordinaire ici dans le texte, c'est d'accueillir chez soi un homme quand on est deux femmes. Vous voyez ça ? Jésus est accueilli par deux femmes. Ça, c'est pas ordinaire. Pourquoi ? Parce que les hommes et les femmes vivaient séparés. Quand ils allaient à la synagogue, ils étaient séparés. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Quand ils allaient au temple, c'était pareil. Moi, je suis allé au Canada dans une église mennonite et amish. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Alors, vous savez, les chevaux, etc., etc. Je suis allé dans une église comme ça. C'était rigolo parce que ma femme était d'un côté avec les enfants et moi, j'étais de l'autre. Et quand on a été invité à manger chez ces gens-là, c'était encore séparé d'un côté et de l'autre. Donc, c'était comme ça ici, séparé. Donc, il y avait quelque chose d'assez extraordinaire là, ici, que des hommes, un homme et des femmes se retrouvent ensemble. En plus, il y avait quelque chose d'extraordinaire, d'une certaine manière, à accueillir un rabbin comme Jésus. Pourquoi ? Parce que la réputation de Jésus commençait déjà à se répandre. On avait entendu parler des miracles, on avait entendu parler de guérison et on avait entendu parler de l'enseignement de Jésus. Donc, ce n'était pas une petite chose d'accueillir une personne comme Jésus chez soi. Voyez, côté ordinaire et extraordinaire. Alors, dans notre texte, Jésus va être invité à manger. On aime bien être invité à manger, hein ? Mais combien de temps Jésus a-t-il passé chez Marie et chez Marthe avant qu'ils se mettent à table ? Ça, on ne sait pas. Peut-être qu'en fait, Jésus est arrivé très tôt et peut-être qu'ils ont passé un bon moment, Marie, Marthe et Jésus, juste à discuter. On ne sait pas. Peut-être qu'au départ, Marthe aussi, elle était au pied de Jésus avec sa sœur et en train d'écouter Jésus enseigner. Le texte ne nous le dit pas. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand l'heure du midi approche ? Le ventre commence à gargouiller. Et puis, il a bien fallu que quelqu'un s'occupe de faire à manger pour l'inviter. Surtout, si on invite quelqu'un, il faut lui faire à manger. Alors, qui est le chef de la maison ici ? C'est Marthe. Alors, c'est Marthe qui va partir dans la cuisine et qui va s'occuper du repas. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a Marie et Jésus qui restent et qui continuent à discuter. Jusque-là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, tout se passe très bien. Mais Luc nous dit ici que Marie s'est assise au pied de Jésus. Cette position-là, vous savez ce qu'elle est, ce qu'elle représente ? Ça représente un élève qui se place au pied de son maître. Marie prend la position d'un disciple ici. Et c'est extraordinaire. La position d'un disciple pour une femme, ça c'est inhabituel. En fait, il n'y avait rien qui interdisait qu'une femme devienne disciple d'un grand rabbin ou d'un maître à cette époque-là. Mais dans la réalité, ça ne se voyait jamais. Être le disciple d'un rabbin, c'était plutôt réservé aux hommes. Et voyez ici le côté assez particulier de la situation. Marie va se mettre au pied de Jésus comme un disciple qui se met au pied d'un maître. Et ça, c'est exceptionnel. Jésus fait fi des préjugés ici. Il fait table rase des tabous de son époque. Premièrement, en entrant chez Marie et Marthe, deux femmes, puis en enseignant à Marie comme un maître enseigne à son disciple. Voyez la situation assez paradoxale dans ce texte-là. Pendant que Marthe prépare le repas et que Marie écoute Jésus, on commence à entendre le bruit des casseroles. Il y a quelque chose qui se passe dans la cuisine. Dans la cuisine, il n'y a pas que l'eau des pommes de terre qui bout. Marthe, elle est frustrée. Son cœur commence à bouillir. Elle est fâchée. Pourquoi ? Parce qu'on l'a laissée seule pour s'occuper du repas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous d'être en train de faire quelque chose et il y a plein de personnes à côté de vous qui font rien ? Et vous, vous vous activez et puis là vous dites « Mais ils vont peut-être allumer à un moment donné, je suis tout seul ici et puis c'est moi qui fais tout ». Eh ben Marthe, elle est comme ça. Son cœur est comme une cocotte minute. Elle est prête à exploser. Et à un moment donné, ce qui doit arriver arriva, elle n'en peut plus. Elle va rejoindre Jésus et Marie et elle va leur dire sa façon de penser. En fait, ce qui est très intéressant, c'est à Jésus qu'elle fait des reproches. Remarquez dans le texte, elle s'adresse à Jésus. Elle en a contre sa sœur, mais elle s'adresse à Jésus et elle fait des reproches à Jésus. Waouh, c'est chaud, hein? Elle s'adresse à Jésus. « Dis à ma sœur de se bouger. Parle-lui, Seigneur. Fais quelque chose. » Et là, l'atmosphère est tendue. Et Jésus va répondre à Marthe avec beaucoup, beaucoup de douceur. Comment est-ce que je sais ça? Ben, c'est tout simplement que répéter le prénom d'une personne deux fois dans la tradition juive, dans les coutumes juives, c'est un signe de douceur et de compassion. Jésus va la reprendre, mais avec beaucoup de douceur et de compassion. Marthe, Marthe. Hein? Marthe avait besoin d'être recadrée, mais Jésus va la traiter avec beaucoup de douceur. Alors, on peut se poser la question maintenant, qu'est-ce que ce texte pourrait nous enseigner à nous cet après-midi ? Les chrétiens de l'église de Saint-Maur. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une situation comme celle-là? Alors, première chose qu'il faut dire, très importante, dans ce texte, Jésus n'est pas en train de nous enseigner que servir, c'est pas bon. Alors, il faut vraiment comprendre ça. Jésus n'est pas en train de dévaluer le service. Hein? Il n'est pas en train de dire « notre travail pour nuit, notre ministère, ça n'a pas d'importance ». Ce n'est pas ça la leçon du texte ici. Si on prend le temps de lire le passage juste avant, parce qu'il faut toujours lire les textes dans leur contexte, alors vous savez quel est le passage juste avant l'histoire ici de Marie et Marthe ? Eh bien c'est l'histoire du bon samaritain. Le bon samaritain, il a été le prochain du pauvre homme qui avait été laissé pour mort au bord de la route. Comment est-ce qu'il a été le prochain de l'homme laissé pour mort ? En le servant. En le servant. Jésus nous montre que le service, c'est important. Il a démontré son amour à cet homme-là qui aurait pu mourir, qui avait été battu. Comment il a fait ? En prenant soin de lui. En prenant du temps pour lui. En payant pour lui. Donc, aimer, ce n'est pas que des belles paroles. Il a servi l'homme blessé et il a manifesté son amour envers lui, le bon samaritain. Donc ici, Jésus veut montrer cela dans le contexte de Marie et de Marthe. Il veut montrer que préparer un repas pour Jésus et prendre soin de lui, c'est bien. Et je voudrais dire que ceux qui servent dans l'Église aujourd'hui, c'est bien. Ça plaît au Seigneur. Le Seigneur veut qu'on soit des serviteurs. Jésus a dit que si quelqu'un veut être grand dans le royaume de Dieu, qu'il se fasse le serviteur de tous. La leçon ici, c'est surtout pas de dévaloriser, de dévaluer le service qu'on peut avoir pour le Seigneur. Mais quel est le problème ici alors? Marthe sert, très bien. Mais remarquez ce qui se passe dans son cœur pendant qu'elle sert. Et Luc nous met sur la piste. Il nous donne des indices. On a plusieurs mots dans plusieurs traductions différentes, mais voyez, il y a des mots comme par exemple « Marthe est tiraillée », « elle est agitée », « elle est inquiète », « elle se soucie », « elle se compare », etc., etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans le cœur de Marthe, le service est devenu quelque chose d'autre que ce qu'il doit être en réalité? C'est une bonne question à se poser. Quand on sert, pourquoi est-ce qu'on sert? Alors Jésus ici amène Marthe à réfléchir aux motivations qui la poussent à servir. Est-ce que ce qu'elle fait est une réponse d'amour envers Jésus? Vous savez, au départ, Marthe a dû vouloir accueillir Jésus chez elle parce qu'elle l'aimait, parce qu'elle voulait lui plaire. Et petit à petit, il s'est passé quelque chose dans son cœur et le service n'est plus motivé par la même chose. Voyez-vous? Alors, vous savez, on peut avoir toutes sortes de motivations pour servir. Vous connaissez votre cœur et vous savez très bien comme moi que parfois on sert pour toutes sortes de raisons assez étranges. Alors, on peut servir pour essayer de gagner l'approbation de quelqu'un. Si je fais quelque chose, ben, ils vont m'aimer, ils vont m'accepter, ils vont m'approuver. On peut servir pour prouver qu'on est un petit peu meilleur ou supérieur qu'un autre en se comparant aux autres. On peut servir pour essayer d'impressionner l'autre. « Waouh, tu vois, je suis capable de faire ça, et toi ?» Ou on peut peut-être servir pour faire taire la culpabilité. « Ah Seigneur, j'ai tellement loupé là, dans ce domaine-là. Et je sais que cette semaine, j'aurais dû faire ceci et cela, et je ne l'ai pas fait. Donc je vais me rattraper en faisant plein de choses. » Mais pour toutes sortes de motivations, en fait, qui n'ont plus rien à voir avec l'amour. Voyez-vous ? Quelles sont les motivations pour notre service? Pourquoi est-ce que je sers le Seigneur aujourd'hui? Quelles sont les motivations de Marthe pour son service? Ce sont des questions importantes. Si on les replace dans le contexte du ministère de Jésus, c'est aussi important de comprendre ce qui se passe ici. Imaginez, Marthe, elle a Jésus chez elle, avec elle. Jésus, c'est le Messie. Est-ce que Marthe comprend bien ce que c'est un Messie? Peut-être pas encore très bien. Mais elle a le Messie avec elle. Et bientôt, Jésus va leur être enlevé. Voyez-vous? Et Marthe, elle est tellement absorbée par ce qu'elle a à faire qu'elle a oublié la raison pour laquelle elle fait tout ce qu'elle fait. Ça nous arrive, ça? Hein? Au départ, elle voulait faire un bon repas pour plaire à Jésus. Maintenant, il n'y a plus de joie dans son cœur. Elle pense même plus à Jésus à la limite. Elle pense à quoi? Elle est focalisée sur sa sœur. Elle est focalisée sur le repas. Elle est focalisée sur ce qu'on va penser d'elle, sur sa réputation. Et elle a oublié pourquoi elle fait tout ce qu'elle fait. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis ce texte-là, je me sens mal pour Marthe. C'est vrai, hein? Moi, j'ai de la sympathie pour Marthe. Pourquoi? Parce que je m'identifie à elle. Je trouve que je lui ressemble souvent. On ressemble à Marthe. En fait, ce qui se passe dans cette histoire-ci, c'est pas très loin de nous. C'est assez habituel même dans notre expérience, à nous. Comme Marthe, nous aussi, on est peut-être tellement pris par tout ce qu'on fait pour Jésus qu'on en finit par oublier Jésus lui-même. Et quand ça arrive, on a besoin d'être recadré. Et le Seigneur va le faire avec beaucoup de douceur, parce qu'il aime qu'on serve, mais il veut qu'on serve pour les bonnes motivations, les bonnes raisons. Alors, comment savoir si ce qui est arrivé à Marthe dans ce texte-là, c'est en train de m'arriver à moi aujourd'hui? Comment on fait pour savoir ça? Une bonne question, hein? Eh bien, le Seigneur nous invite à nous arrêter et à examiner son propre cœur. La Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » S'arrêter et regarder son propre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur pendant que je sers? Est-ce que mon cœur est tiraillé? Est-ce que je suis agité? Est-ce que je suis inquiet? Est-ce que je suis soucieux? Est-ce que je suis en train de me comparer aux autres? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Et ça, ça nous aide à comprendre si on a les bonnes motivations pour servir ou pas. Quand on est tiraillé, quand on est agité, quand on est inquiet, peut-être que notre service a pris une place qui ne doit pas avoir. Peut-être que le service est devenu en lui-même une idole qui remplace l'amour pour Jésus. Et là, on doit se laisser reprendre. Alors, qu'est-ce que le texte nous aide à comprendre cet après-midi? Il y a deux ou trois idées fortes que j'aimerais dégager de ce texte. Premièrement, avant de servir le Seigneur, il faut le laisser nous servir. Est-ce que je dois répéter ça? Avant de servir le Seigneur, il faut le laisser nous servir. C'est nous qui avons besoin de lui. Il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plaisir. Marc chapitre 10, verset 45. Se laisser servir d'abord par Jésus avant de le servir. Vous savez ce qui va se passer si on néglige de laisser Jésus nous servir? En écoutant sa parole ou en prenant du temps à ses pieds comme Marie l'a fait? Comme un disciple qui se laisse enseigner par son maître, qu'est-ce qui va nous arriver si on ne laisse pas Jésus nous servir d'abord? Eh bien, on va s'épuiser, on va devenir amer. Ça va être la catastrophe, en fait. Notre vie chrétienne ne va pas aller très bien. Hein? Laissez Jésus nous servir. C'est la base de la vie chrétienne, en fait. Avant de penser à faire quoi que ce soit pour Jésus, il faut le laisser lui faire tout pour nous. Le laisser nous pardonner, le laisser nous purifier, le laisser nous fortifier, nous sauver. Le salut, c'est un don de la grâce. Souvenez-vous de l'histoire de Jésus qui lave les pieds de ses disciples et de Pierre. Vous souvenez de cette histoire-là? Jésus qui prend la serviette et il y a un bassin d'eau, là, une petite bassine, et puis il lave chacun des pieds des disciples. Et quand il arrive à Pierre, il veut pas se faire laver les pieds. Et Jésus lui dit, si tu me laisses pas te servir, en te lavant les pieds, tu as aucune part avec moi. Tu peux pas avoir de part avec moi. Se laisser servir par Jésus d'abord. Ça, c'est très important. Ensuite, deuxièmement, laisser notre service être motivé par son amour. Examiner son cœur pour savoir si c'est encore l'amour qui me motive, si c'est encore l'amour pour Jésus. L'apôtre Paul, sa motivation, c'était l'amour. L'amour du Christ nous presse, car nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, afin que celui qui vit ne vive plus pour lui-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Paul était motivé par l'amour du Christ. Laissons l'amour du Christ nous motiver. Imaginez, en fait, nous, on est comme la personne laissée pour mort au bord de la route. Et Jésus, le bon Samaritain, il nous a pris. Il nous a mis sur ses épaules, il nous a pris en charge, il nous a soignés, et puis il a payé pour nous. Son amour a guéri nos blessures. Il faut revenir sans cesse à ses pieds et le laisser nous rappeler constamment combien il nous aime. Et c'est ça qui va servir de motivation pour notre service. Laissons-nous conquérir par son amour. Laissons-nous remplir de son amour sans cesse. Donc, Jésus qui nous sert en premier. Laissez l'amour de Jésus nous motiver pour notre service. Cet après-midi, notre texte nous parle de choix. Servir d'abord ou le laisser lui nous servir. Il y a un choix. Cet après-midi, notre texte nous parle de priorité. Vouloir faire des choses pour Jésus en premier ou le laisser lui faire pour nous ce que lui seul peut faire pour nous. Cet après-midi, notre texte illustre la différence en fait qu'il y a entre la religion et l'évangile. La religion, c'est quoi ? C'est de faire quelque chose pour Jésus, pour gagner son amour. Plus j'en fais, plus Jésus va m'aimer. Ça, c'est la religion. L'évangile, c'est quoi ? C'est de comprendre qui m'a servi et qui m'aime déjà. Et c'est de le servir par reconnaissance, comme une réponse d'amour vis-à-vis de lui parce qu'il m'a tant aimé. La meilleure part. Jésus va dire à Marie, tu as choisi la meilleure part. Ça vous intéresse la meilleure part ? Vous avez envie de choisir la meilleure part ? La meilleure part dont Jésus parle ici, c'est de se mettre à l'écoute de la parole de Jésus. Ouvrir la Bible. Laisser Dieu nous parler au jour le jour, jour après jour. La meilleure part, c'est de le laisser nous servir. C'est de choisir de devenir son disciple et de recevoir son enseignement régulièrement. Où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à la meilleure part ? Êtes-vous dans votre vie de tous les jours en train de choisir la meilleure part ? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses qui seraient venues s'immiscer dans votre vie spirituelle ? Et qui vous fait passer à côté de la meilleure part. Le Seigneur veut qu'on choisisse la meilleure part. Moi, je connais des personnes qui ont dû arrêter leur travail un jour, ou leur ministère à cause de la maladie peut-être, ou parce qu'ils ont vieilli, ils n'ont plus autant d'énergie, n'ont plus de force. Il y a des personnes qui ont dû laisser leur place à des plus jeunes dans le travail, dans le ministère. Autrefois, moi, 20 ans en arrière, quand je suis arrivé en France, je faisais 3 marchés à Pontault-Combault par semaine. Et j'aimais ça, plein d'énergie. À une certaine époque, certains serviteurs de Dieu prêchaient en plein air, à tous les jours. On change, et les époques changent, les ministères peuvent changer. Certains ministères sont remplacés par d'autres. Et il y a plein de choses dans cette vie qui peuvent nous être enlevés. Vous avez vécu ça ? Vous savez de quoi je parle ? Il y a des choses qu'on peut ne plus pouvoir faire avec le temps. Parce que la culture du moment, parce que les habitudes du moment, peut-être parce que les lois de la République, peut-être parce que ma propre situation ne me permet plus de faire les choses que je faisais avant. Mais Jésus a dit à Marie que ce qu'elle a choisi, elle, rien ni personne ne pourra jamais lui enlever. Voyez-vous, il y a des choses qu'on peut perdre, qui peuvent nous être enlevées, il y a des choses qui peuvent changer, mais il y a des choses qui restent toujours les mêmes. Et à nous de faire la différence et de voir quelles sont nos priorités par rapport à cela. As-tu choisi de mettre en priorité cet après-midi quelque chose que tu risques de perdre demain ? Dans 5 ans ou dans 10 ans? Ou as-tu découvert ce que rien ne pourra jamais t'enlever? As-tu découvert la meilleure part? Ou es-tu en train d'essayer de retenir des choses que tu pourras pas retenir? Le texte est profond, hein? Ça nous fait réfléchir. Autre question pour nous, en conclusion. Cet après-midi, comment te sens-tu ? Es-tu agité en ce moment dans ta vie ? Es-tu tiraillé ? Es-tu inquiet ? Es-tu troublé ? Es-tu frustré ? Es-tu amer ? Est-ce que tu es arrivé à penser, comme Marthe, que Jésus ne se soucie pas de toi? Est-ce que tu penses ça? Tu vis une galère, c'est difficile, on dirait que tout le monde autour ne remarque pas la difficulté que tu vis, et là tu es frustré. Tu peux penser que Jésus lui-même ne s'intéresse pas à ça. Comment te sens-tu? Il y a, cet après-midi, une meilleure part qui ne te sera jamais enlevée. Si tu te sens agité, inquiet, troublé, fais comme Marie. Reviens à ses pieds. Reste dans sa présence. Laisse-le te parler. Laisse-le faire de toi un disciple. Que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui. Prions. Seigneur Jésus, la vie est faite de toutes sortes de situations compliquées. Et très souvent, nous faisons pour le mieux, pour le meilleur, avec notre compréhension des choses. Mais nous rendons compte parfois que la paix n'est plus là, que notre cœur se trouble, nous sommes agités. Mais Seigneur, toi, tu veux nous ramener à toi. Tu veux nous rappeler la meilleure part que personne ne peut nous enlever. Oui, Seigneur, c'est vrai que nos forces peuvent nous diminuer. C'est vrai que les contextes peuvent changer, les époques changent, les ministères peuvent changer. Mais Seigneur, nous voulons toujours nous laisser servir par toi. Que notre service soit inspiré par ton amour. Et surtout, chercher la meilleure part qui ne nous sera jamais changée. Merci Jésus, parce que toi, tu es la meilleure part. Merci parce que ta parole, c'est pour nous la meilleure part. Comble-nous de cette meilleure part aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.